voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons travail. Les entreprises peuvent-elles faire plus pour leurs salariés? Alors, j'entends déjà des voix qui disent oui, augmenter mon salaire. Eh bien, sachez que c'est une question en tout cas qui fait l'objet de plusieurs enquêtes. Avec des propositions, il n'est pas forcément question de salaire, mais plutôt de bien-être au travail. Et tous les patrons intelligents le savent, le bien-être, c'est capital pour la rentabilité. Et chez vous, les voisins, dites-nous quelle est un peu l'ambiance au boulot, si vous êtes satisfait? Est-ce que l'on rit? Est-ce que l'on communique? Recevez-vous des consignes claires, de la considération? Y a-t-il de la motivation autour de vous? Quel est votre temps de transport aussi pour venir travailler le matin? Car oui, c'est aussi un sujet qui devrait préoccuper les entreprises. Les problèmes d'engorgement du trafic dans vos villes saturées d'embouteillages, les entreprises doivent-elles, par exemple, inventer des solutions? Avez-vous aussi l'occasion de travailler à distance grâce aux nouvelles technologies? On attend bien sûr vos points de vue et vos témoignages. Vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et vos réactions sur les réseaux sociaux. Dans le studio, je reçois Jean-Claude Delgène. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur, directeur général du cabinet Technologia depuis 30 ans.
Non. Oui, presque 30 ans.
Spécialiste de la prévention des risques
liés au travail.
Ouais. Votre livre d'ailleurs sort très prochainement, Idées reçues sur le burn-out. Également avec vous, Vincent Harel, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes également chef d'entreprise, directeur adjoint de Mercer, entreprise de conseil en ressources humaines, mais vous vendez aussi des mutuelles aux salariés, vous vendez de la protection sociale. Nous serons aussi en ligne avec Sylvie Landriève, qui est co-directrice du forum Vie Mobile. C'est un institut de recherche sur la mobilité au travail qui est financée par la SNCF.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Jean-Claude Delgène, vous êtes souvent appelé en pompier sur tous les incendies du mal-être au travail, vague de suicides chez France Télécom, technocentre de Renault Automobile, mais ça peut être aussi également à Matignon, dans les équipes d'un Premier ministre. Comment sont considérés aujourd'hui, alors avant qu'on en arrive à des drames, il y a des problèmes de santé, mais comment sont considérées aujourd'hui toutes ces questions de mal-être au travail, de perte de sens par les entreprises elles-mêmes?
Écoutez, chez les employeurs, il y a trois types de réponses. La première réponse,
c'est... Il y a trois types de patrons, en gros.
Oui, si on veut. Ouais. Disons que la première réponse, c'est les grandes considérations, les grandes envolées, mais peu de choses derrière. La deuxième, c'est des grandes considérations, des grandes envolées, mais avec un peu, par exemple, on va mettre un peu de conciergerie, on va mettre un peu, je dirais, d'instruments, on va permettre des massages et choses comme ça, vous voyez. Et puis, la troisième considération, et c'est une considération, je pèse mes mots, qui est en pleine croissance, à peu près 25 à 30% des entreprises commencent aujourd'hui à considérer qu'il vaut mieux avoir des salariés heureux au travail, parce que des salariés à peu près épanouis au travail, c'est quand même des gens qui posent moins de problèmes, qui permettent d'avoir...
Très concrètement, qui manquent moins, qui sont moins absents, qui
absolument.
Sont moins malades.
Ouais, absolument, qui sont plus productifs et qui sont, comment dire, dans une logique proactive. On n'a pas besoin non plus... C'est beaucoup plus facile de gérer des gens à peu près épanouis au travail. Mmh. Et donc, voilà, donc il faut favoriser la troisième option.
Et pour vous, Vincent Harel, comment sont considérées ces questions-là aujourd'hui? Sujet à la mode, périphérique, dont il faut avoir l'air de se préoccuper, ou bien perçu comme un vrai levier pour améliorer les performances des salariés?
Non, à chaque fois qu'on en parle avec des clients, en particulier DRH, c'est un sujet qui fait toujours tilt dans l'œil du DRH, parce qu'il a des problématiques très quotidiennes, par exemple autour de son taux d'absentéisme. Donc pour lui, c'est un sujet effectivement de bien-être au travail, mais aussi de performance économique. Et je rejoins ce que disait Jean-Claude, c'est il y a des approches assez différentes et finalement assez peu sont réellement actifs par rapport à la façon dont ils abordent cette problématique-là, au-delà de mesures cosmétiques ou un peu modeuses, façon Silicon Valley.
C'est-à-dire façon Silicon Valley, vous voulez dire quelques petits
entreprises,
cours de méditation, yoga le matin,
oui, finalement, tout ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons le wellness, c'est une réponse qui peut être une réponse à des situations particulières dans l'entreprise, mais finalement, ce qui importe aux collaborateurs, c'est aussi la qualité de son management, c'est ses perspectives de carrière, c'est son développement personnel, c'est ses conditions de travail. Alors, ces conditions de travail, ce n'est pas forcément un canapé et un baby-foot dans une salle de réunion. En tout cas, ça dépend de la nature d'entreprise et de sa culture.
Ouais, donc, plus sérieusement, qu'est-ce qui a fondamentalement changé ces 10 ou 20 dernières années, Jean-Claude Delgène, pour que cette question devienne à ce point-là tendue, en tout cas du côté des salariés et jusqu'au DRH. Après, est-ce que ça remonte jusqu'au patron et ça devient une préoccupation? Pas forcément, mais...
Si vous voulez, deux choses. Déjà, la première chose, c'est que la pression est beaucoup plus importante aujourd'hui. Je discutais il y a dernièrement avec un chef d'entreprise et il m'expliquait que la pression qu'il avait aujourd'hui n'avait rien à voir avec celle qu'il avait il y a simplement 15 ans. Donc ça, c'est la première chose. La concurrence, l'acharnement concurrentiel, l'exigence de compétitivité, enfin, les temps sont durs. La deuxième chose, c'est que on n'arrête jamais. Le temps s'est accéléré, il y a une déconnexion entre le lieu de travail et le temps de travail, ce qui fait qu'on est toujours en connexion avec le travail. On ne va plus en travail, on n'en sort plus, on est toujours en connexion, non pas avec un lieu où on exerce son travail, mais avec des projets que l'on gère à distance grâce à la laisse électronique qui est le smartphone. Et ça, c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce que certains le vivent à peu près bien. Ils travaillent le soir, ils travaillent tard. L'APEC a rendu une étude il n'y a pas très longtemps qui montrait que 23%...
L'Agence pour l'emploi des cadres.
Voilà, l'Agence pour l'emploi des cadres, qui montrait que 23% simplement des cadres déconnectés en vacances. Nous, on a fait une étude en 2013 qui reprenait des chiffres de 2003 de l'INSEE qui montre que, en fait, en 2003, un tiers des cadres travaillaient, tard le soir, entre 20h et 24h. Et nous, en 2013, on a montré que ce tiers était passé à plus de 50%. Ça veut dire que les gens travaillent beaucoup plus. Il y a une toute puissance du travail qui s'invite, je dirais, dans la vie des foyers, qui élimine toutes les autres activités. Et donc, si on rajoute à ça le temps de transport dont vous parliez, puisqu'il faut maintenant, par exemple, rien que sur Paris, en moyenne, c'est 1h30 pour aller et revenir à son travail. Ce qui est beaucoup. Et qu'on voit la cherté des loyers, les gens sont obligés de s'exiler de plus en plus loin pour pouvoir simplement vivre. Alors, quand vous avez loyer élevé, temps de transport, et que vous rentrez le soir chez vous, et que vous avez, je dirais, des moyens qui sont limités, c'est difficile de se reconstituer la santé et le moral pour aller repartir retravailler.
Est-ce que ce phénomène-là touche tous les pays aujourd'hui, sur par exemple les cadres qui déconnectent rarement pendant leur congé? Les mauvaises langues américaines vont dire, oh, bah, de toute façon pour les Français c'est pas très grave, ils ont déjà tellement de vacances.
Oui, alors les Français sont toujours perçus comme ceux qui travaillent le moins, ce qui n'est pas forcément la réalité d'ailleurs. Oui, c'est un sujet qui est clairement international. Alors moi, je travaille dans un groupe international, donc c'est des sujets sur lesquels on échange, notamment entre collègues européens. Et cette problématique de bien-être au travail, de qualité de vie, on la retrouve en Grande-Bretagne, mais on la retrouve donc plutôt dans des pays, perçus comme occidentalisés, on va dire. Mais c'est aussi un sujet, par exemple, en Turquie. Le sujet des transports à Istanbul est un sujet massif dans des mégapoles comme ça. Donc le sujet de la qualité de vie au travail, de la santé au travail est un sujet qui préoccupe dans tous les pays un peu modernisés. Enfin, c'est un phénomène de mondialisation sans aucun doute.
La multiplication de ce qu'on appelle aujourd'hui les burn-out, d'ailleurs on ne sait pas très bien ce qu'il faut comprendre derrière ce mot-là, malgré les définitions médicales qui elles aussi sont des définitions fluctuantes. Mais ça révèle quoi sur la réalité des conditions de travail aujourd'hui ?
Écoutez, la question, moi je préfère parler d'épuisement professionnel que de burn-out, parce que le burn-out, effectivement, a une cinquantaine de définitions. L'épuisement professionnel renvoie à une acception beaucoup plus réduite, quasiment médicale. Donc, en épuisement professionnel, on peut dire qu'il y a une forte croissance de l'épuisement professionnel dans notre pays, mais c'est vrai aussi en Allemagne. L'assurance maladie allemande a montré en 2013 qu'il y avait 20%, je dirais, des salariés allemands qui étaient exposés à un risque élevé de burn-out. La Belgique a fait les mêmes constats. Donc, on a, en fait, dans les pays occidentaux, une forte croissance. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les gens qui sont au travail n'ont plus, je dirais, la capacité à se régénérer comme il le devrait. Le matin, quand vous faites une bonne nuit sommeil, vous vous régénérez sans problème. Aujourd'hui, il y a tellement d'intensité, il y a tellement de connexions, d'hyperconnectivité, que les gens n'ont plus la possibilité de se régénérer comme il le devrait. Et donc, nous, on milite pour justement favoriser un équilibre au travail, faire en sorte que les gens travaillent, mais fassent autre chose. Il faut savoir que quand on travaille trop, on travaille mal.
Vous restez avec nous. Dans quelques instants, on accueille la co-directrice du Forum Vie Mobile, qui est un institut de recherche sur la mobilité au travail, justement pour reparler du problème des transports des salariés, qui est maintenant un problème crucial avec l'urbanisation, le mode de vie de plus en plus urbain. Les engorgements, les embouteillages sont légion et effectivement, les salariés s'arrachent les cheveux dans les embouteillages.
were low few years ago. Now they're out in hay. The good old days were full of sunshine. Now they're full of rain. His arms felt so right and warm every time he touched her. Now his arms feel so cold and wrong. But he's her baby's father. What can you do about love, hate, sunshine and rain, tears and laughter, joy, pain, go home or stay, before and after. Love, hate, sunshine and rain, tears and laughter, joy, pain, go home or stay, before and after. Before and after.
Ayo, Love and Hate chez 7 milliards de voisins, les entreprises peuvent-elles faire plus pour le bien-être de leurs salariés? C'est la question que nous posons aujourd'hui avec des spécialistes du bien-être ou du mal-être au travail, je ne sais pas comment il faut vous définir. Et nous accueillons également Sylvie Landrieve qui est co-directrice du forum Vie Mobile. Bonjour.
Bonjour.
Ce forum Vie Mobile, c'est un institut de recherche en fait sur la mobilité au travail qui est financé par la SNCF. Alors la mobilité au travail, c'est très vaste. Hein. Ça peut être aussi pour une entreprise, pour un patron. Êtes-vous disponible pour aller, pour voyager pour votre métier c'est, ou bien où habitez-vous par rapport à la localisation de mon entreprise?
Alors effectivement, la mobilité liée au travail, en fait, c'est l'ensemble des déplacements liés au travail. Donc aussi bien les déplacements domicile-travail auxquels on pense toujours en premier, mais aussi les déplacements professionnels et les changements de résidence pour changer de poste, c'est-à-dire les déménagements. Et ce qui ressort un peu des grandes enquêtes qu'on mène dans les pays développés, c'est que tous les déplacements, leur durée, leur fréquence, leurs conditions, à la fois structurent les modes de vie et les gens trouvent que c'est très compliqué de les caser dans la vie quotidienne. Ils vont trop loin, trop souvent, ils sont transportés dans de trop mauvaises conditions.
C'est ça, c'est ce qu'on appellerait le déplacement professionnel en fait. Hein. De plus en plus souvent, les gens sont amenés à travailler avec l'international. Si on prend le cas de pas mal de nos auditeurs sur le continent africain, nos auditeurs en Afrique sont extrêmement mobiles d'un pays à un autre pour aller rencontrer des clients, etc. Tout ça, ça impacte la vie quotidienne, en fait.
Oui, alors tout à fait. D'autant que le plus souvent, en fait, le problème, c'est que les entreprises, en fait, n'ont pas repéré ce problème des déplacements. C'est-à-dire que ça vient, quand on leur parle de mobilité, en fait, elles pensent mobilité professionnelle, elles pensent changement de poste, mais elles ne pensent pas temps de transport et déplacement. Et en particulier pour les voyages professionnels que vous visiez, ils ne sont tout simplement pas gérés, en fait, par les entreprises.
Comment ça, pas gérer ? L'entreprise est bien au courant quand elle envoie un de ses salariés pour aller rencontrer un client dans un pays voisin ou à l'autre bout de la planète.
Oui, tout à fait. Mais par contre, gérer les conséquences en fait pour la santé, pour comment les
la fatigue tout simplement.
La fatigue. Alors ça, c'est le premier, on va dire, c'est le premier effet. Hein. Mais même la difficulté à gérer sa vie familiale au quotidien quand on a beaucoup de déplacements, des déplacements de plus en plus lointains, et donc avec des frottements qui font que le soir, on va pas forcément rentrer à l'heure qu'on a prévu parce que un avion, un train a du retard ou parce qu'on l'a loupé ou parce que le rendez-vous a duré plus longtemps que prévu. En fait, tous les impacts sur la vie familiale et la vie sociale ne sont pas pensés. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les entreprises, ce qui est difficile, c'est que l'impact des déplacements sur la vie quotidienne des salariés, c'est à la charnière entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la qualité de vie au travail, mais c'est la qualité de vie liée aux déplacements liés au travail, en fait. Et donc, c'est compliqué pour les entreprises.
On a tendance à s'en laver les mains, finalement. C'est votre sentiment aussi, Vincent Harel, Jean-Claude Delgène?
Alors, enfin, si je prends l'exemple de l'entreprise dans laquelle je travaille, on a une réalité qui est assez variée. C'est-à-dire qu'on a un gros site qui est à Paris à La Défense, donc avec des gens qui, pour certains d'entre eux, ont un temps de transport assez significatif, hein, jusqu'à 2h le matin, 2h le soir, assez couramment. Ce sont des gens en plus
ça qui... Ça fait 4 heures par jour de temps de transport.
C'est assez fréquent. Hein. Si en plus, il y a des gens qui pointent, souvent des employés. Donc, nous, la réponse qu'on a sur ce type de situation, donc c'est difficile effectivement de s'emparer de manière absolue de ce temps de transport-là, parce que c'est la combinaison de l'infrastructure parisienne et aussi des choix de vie qu'ont fait les collaborateurs qui, cherchant la qualité de vie, se sont éloignés de Paris pour des raisons économiques. Donc nous, on met en place ce qu'on appelle des horaires libres, c'est-à-dire qu'on dit « vous avez des plages de présence obligatoires ».
Vous pouvez décaler vos horaires.
Et donc, on dit, c'est 9h. Donc, les présences obligatoires, c'est 9h30, 11h45, 14h15, 16h30. Et vous vous débrouillez pour faire votre temps de travail sur ces périodes-là. Ce qui permet...
Ça ne réduit pas le temps de transport.
Ça réduit pas le transport. Oui, mais disons que ça enlève la contrainte d'un horaire fixe. Enfin, bon, c'est un début de réponse.
Oui. Ce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs problèmes.
Oui.
Le premier, c'est qu'on a fait des erreurs énormes dans l'aménagement du territoire dans les années 60. Vous prenez l'Allemagne. L'Allemagne, vous avez 80 villes de 500 000 habitants qui couvrent tout le territoire. Le temps de transport des salariés, il est très faible. En France, on a développé la zone parisienne d'une manière
les
immense.
Les emplois sont au sud et les habitations sont au nord, en gros.
On a une situation complètement inversée. Vous voyez, et donc, avec des transhumances quotidiennes qui sont énormes. Des gens qui viennent du Havre travailler à Paris, de Lille, du Sud, d'Orléans, etc. Donc qui bousillent leur vie. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a double peine. Il y a le temps de transport, mais il y a l'incidence sur la santé. Les gens qui font 2 heures aller, 2 heures retour sont vraiment abîmés en termes de santé. Il n'y a aucune étude épidémiologique là-dessus. Rien. Rien n'est fait là-dessus. Ce qui est d'ailleurs tout à fait anormal. La deuxième chose, c'est que les entreprises... Elles payent énormément pour les infrastructures. 45% du budget des transports viennent de la taxe transport, il faut le rappeler. Donc les entreprises, jouent le jeu de ce point de vue-là. En revanche, effectivement, comme le dit très bien Vincent, il faut réfléchir aujourd'hui comment on gère ces contraintes. Et gérer ces contraintes, c'est par exemple... bien sûr, aménager les horaires, très bien, mais c'est aussi favoriser, par exemple, le télétravail. Dans notre pays, le télétravail est très peu développé. Vous prenez la Finlande, les pays du Nord, Suède, etc., ils ont un taux de télétravail qui est 25-26%. Nous, on est quasiment 10 points de moins. Si on avait simplement 10 points de plus, on aurait moins d'engorgement dans les transports, on aurait une usure moindre, il y aurait moins de vétusté, enfin, on pourrait gérer différemment, vous voyez ?
Sylvie Landriève, sur la question que vous évoquiez tout à l'heure, les déplacements professionnels, sur le temps de transport des salariés au quotidien pour aller sur leur lieu de travail.
Alors moi je rebondis effectivement sur ce qui vient d'être dit. En fait il y a quand même une particularité en France, en particulier en Île-de-France, hein, puisque comment la durée de le temps de transport moyen est de 68 minutes. Donc c'est vraiment, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont au-dessus. Hein. Et quand on interroge les gens sur ce qu'ils voudraient, la moitié des personnes en fait considèrent que l'amélioration de leur vie serait liée à la diminution du temps de trajet domicile travail quotidien.
34% des salariés qui sont interrogés en région parisienne disent que la situation géographique de l'entreprise est décisive pour choisir un boulot quand même, malgré le chômage qu'il y a aujourd'hui en France.
Ben oui.
Oui, parce qu'effectivement, en fait, c'est ce que disait l'interlocuteur précédent. On a fait le choix, en fait, bien sûr, d'avoir une liberté totale d'implantation des entreprises. Les particuliers ont aussi des choix de vie hein, qui les amènent à éventuellement choisir aussi d'être relativement loin pour avoir plus grand, pour avoir moins cher ou pour être dans un cadre de vie qui leur plaît plus.
Ou tout simplement un loyer abordable par rapport à leur salaire.
Effectivement. Et donc c'est vrai que le résultat, c'est beaucoup de transports. Mais malgré tout, les transports quotidiens, c'est pas les seuls déplacements. Les déplacements professionnels sont très significatifs aussi. Hein. Et maintenant, alors qu'avant c'était l'apanage des cadres dirigeants,
oui.
Maintenant c'est vraiment une
croissance exponentielle
qui se développe en fait.
De ces déplacements professionnels. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. On se retrouve juste après le flash pour reparler de ce problème des déplacements professionnels et du temps de transport pour aller sur son lieu de travail. Sylvie Landriève, Jean-Claude Delgène et Vincent Harel, vous restez également avec nous. Vous pouvez bien sûr nous appeler si vous vous reconnaissez dans ces problèmes-là, dans votre vie quotidienne ou que vous soyez dans le monde. Peut-être vous habitez une grande ville avec de forts embouteillages pour vous rendre sur votre lieu de travail. 33 1 84 22 71 71. Les entreprises doivent-elles se préoccuper de ces problèmes ?
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Les entreprises peuvent-elles faire plus pour leurs salariés? Bien sûr, on pose cette question en termes de bien-être au travail avec Jean-Claude Delgène, fondateur et directeur général du cabinet Technologia, spécialiste de la prévention des risques liés au travail, et Vincent Harel, directeur adjoint de Mercer, une entreprise de conseil en ressources humaines et qui vend elle-même aussi des mutuelles de la protection sociale. Les salariés heureux sont 2 fois moins malades, 6 fois moins absents, 9 fois plus loyaux. Alors évidemment, il y a des messages sur Facebook d'auditeurs, notamment sur le continent africain, qui nous disent, comme Brice à Yaoundé, oh, en Afrique, vous savez, le taux de chômage est si élevé qu'on ne pose pas ce genre de questions. Pas sûr qu'on ne les pose pas. Forcément, le problème existe, mais on se dit qu'il est insoluble. Roméo à Douala, également au Cameroun, à quelques exceptions près, il est compliqué de parler d'entreprise chez nous. La gestion est à la petite semaine. Les ragots remplacent les procédures et règles de gestion. Il faudra encore du temps pour qu'on arrive à parler d'amélioration des conditions de travail. Ou encore Bandoumal, qui est à N'Djamena, la capitale tchadienne. L'augmentation des salaires et l'amélioration des conditions de vie font partie des droits des travailleurs. Seulement, dans certaines entreprises, quand on demande une augmentation ou autre chose, le responsable te mettra automatiquement à la porte. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous voyez, comme quoi, dès qu'on parle de bien-être au travail, tout de suite, c'est la question des salaires qui arrive sur le tapis. Et d'ailleurs, également du côté des patrons, qui sont persuadés que la seule discussion autour du bien-être, c'est souvent quand même une discussion financière, non ? Y compris quand on parle des transports. Voulez-vous que je participe à vos... Enfin, il y a une obligation légale en France, mais à vos frais de transport, par exemple.
Oui, vous savez, pendant 50 ans, on a payé pour faire supporter aux gens des conditions de travail qui étaient quand même parfois très risquées et parfois très pénibles. Donc, il y a eu des améliorations de ce point de vue-là, sauf que les mentalités n'ont pas vraiment changé.
À quoi vous faites allusion, quoi,
par exemple, on avait des primes de salissure, les gens qui se salissaient au travail, qui étaient dans la poussière. En France, on n'a pas vraiment de culture de prévention. D'ailleurs, dans d'autres pays non plus. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup amélioré les conditions de travail, mais il reste quand même beaucoup de pénibilité. Et donc, la question qui est posée là, sur le bien-être, il faut vérifier qu'on peut vraiment faire beaucoup. Par exemple, on peut favoriser le covoiturage, permettre aux gens, avec des campagnes adaptées, de trouver des gens qui peuvent les rapprocher du travail. Certaines entreprises, par exemple à Lyon, en France métropolitaine, favorisent cela. Il y a des activités aussi qui sont encouragées, comme l'été, prendre le vélo plutôt que de prendre la voiture. Je le disais tout à l'heure, favoriser le télétravail. Tout cela est
D'ailleurs, en France, il y a des compensations financières pour ceux qui utilisent le vélo aujourd'hui.
Tout à fait, hein, tout à fait. C'est bien.
Pour ne pas qu'ils perdent la compensation qu'ils avaient avec les transports en commun où il y avait une compensation financière.
Oui, tout à fait. C'est bien parce que ça favorise, encore une fois, la préservation de la planète. Ça fait faire de l'exercice. Et puis, encore une fois, ça désengorge les flux. C'est ça l'intérêt.
Vincent Harel, évidemment, les entreprises en même temps ont du mal à voir quel serait leur intérêt à court terme. Les entreprises sont court-termistes par définition.
Alors, je ne dirais pas ça. Je ne pense pas qu'elles soient court-termistes. Elles ont vraiment conscience de la nécessité d'accompagner leurs collaborateurs là-dedans. Je pense notamment à une entreprise qui est un de nos clients, qui est une entreprise qui, il y a une dizaine d'années, était une entreprise de petite taille, qui a connu un très grand succès, et qui maintenant, ils sont près de 1000 salariés. C'est une entreprise dans la grande consommation, avec plutôt des commerciaux sur la route, des gens comme ça. Ils ont beaucoup vécu, très longtemps vécu, dans une ambiance start-up. C'était formidable. Ils partaient en voyage, ils emmenaient leurs commerciaux. C'était super. Et puis, depuis quelques temps, ils subissent un peu cette crise de croissance, cet atterrissage avec des gens qui, il y a 10 ans, avaient 25 ans, maintenant en ont 35, avec des problématiques personnelles qui ont évolué. Et la DRH a vraiment conscience de ça. Vraiment ressent la nécessité d'adapter le mode de management, la façon d'organiser le travail. Parce qu'effectivement, quand on a 25 ans et qu'on n'a pas d'enfants, on a peut-être une énergie qui est différente que quand on a 35 avec 2 enfants et qu'il faut se donner plus de souplesse dans la façon d'organiser le temps de travail. Donc le télétravail est une très bonne idée. Il faut pas, à mon avis, il ne faut pas aller trop loin parce qu'il ne faut pas enlever aussi ce côté place du village qui existe dans les entreprises.
Oui,
parce que c'est le côté collectif.
Plébiscité aussi, d'ailleurs.
Voilà.
Par les salariés.
Voilà, c'est aussi le travail est peut-être dur, mais c'est aussi une manière de se réaliser.
Justement, Sylvie Landrieff, vous qui êtes co-directrice du forum Vie Mobile, cet institut de recherche sur la mobilité au travail, quelles sont les pistes qui sont relatées par les études que vous menez pour améliorer ou réduire le temps de transport des salariés?
Alors en fait, ce qui, par exemple, sur le télétravail, C'est vrai qu'il y a vraiment une dichotomie entre les entreprises qui ont tendance, je dirais, à miser en fait sur le numérique pour résoudre tous les problèmes. Ce serait un peu la magie du numérique. Alors que les personnes, elles, comme c'était dit juste précédemment, sont attachées en fait à leur collectif de travail. Donc ils veulent bien en fait, les gens veulent bien télétravailler quelques jours par semaine, mais c'est plutôt un palliatif, un outil effectivement pour avoir moins de temps de transport, plutôt qu'un souhait en propre.
Alors, dire que tous les métiers ne sont pas délocalisables en télétravail. Par définition, si on travaille sur un site de production, c'est pas possible. Mais effectivement, pour les métiers de service, on peut travailler à distance.
Oui, alors les services qui ne sont pas des services à la personne, en fait. Hein,
exactement.
De toute façon, le service à la personne, lui, doit être, il est posté d'une certaine façon. Hein. Et pour rebondir sur ce qui était dit aussi sur la question, par exemple, de favoriser la marche ou le vélo, hein, pour l'instant, les entreprises, quand même, se saisissent assez peu de ces problématiques. Et à leur décharge, elles n'ont pas forcément non plus des interlocuteurs du côté public qui pourraient leur répondre. Par exemple, j'ai en tête une entreprise du nord de la France qui voulait, en fait, que tous ses salariés soient abonnés au vélo en libre-service, et il n'y avait pas à Lille de personnes qui pouvaient s'occuper en fait d'un abonnement d'entreprise. En fait.
Est-ce que, il faut le redire, hein, la réalité du temps de transport, si on prend l'Île-de-France, on n'a pas de statistiques sur d'autres grandes villes, notamment des villes africaines, mais 46% des travailleurs en Île-de-France passent en moyenne 1h30 par jour dans les transports en commun, estiment que leur temps de transport a des répercussions sur leur productivité, sur... évidemment sur leur fatigue. Que se passe-t-il, Jean-Claude Delgène, lorsqu'une entreprise déménage? J'imagine qu'elle interroge ses salariés sur l'adresse de leur habitation.
Écoutez, il y a une étude de bassin de vie qui est normalement faite au préalable avant le déménagement.
Vous appelez ça une étude de bassin de vie, vous?
Oui, ça s'appelle comme ça, en fait. Ça s'appelle comme ça. Donc, sauf que, en fait, soit on en tient compte, soit on n'en tient pas compte. Moi, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est véritablement faire en sorte d'associer les délégués du personnel, les membres du CHSCT, les membres du comité d'entreprise dans le choix de l'implantation, mais largement en amont. Pas quand tout est terminé, pas en aval, parce que on peut avoir des distorsions très fortes avec des, par exemple, j'ai le cas d'une entreprise qui s'est installée à Beson 3 ans avant l'arrivée du tram, des gens qui venaient, qui devaient du jour au lendemain faire 1h30 en plus de trajet par jour. Un tiers des gens ont quitté cette entreprise. L'autre cas.
Alors certains syndicats parlent de plan social déguisé dans ces cas-là.
Je ne vais pas aller jusque-là, mais je ne dis pas qu'il y avait effectivement, cette volonté de la part de la direction. Ça, je ne suis pas manichéen, mais il y a une véritable responsabilité à assurer ce transfert dans une certaine quiétude. Deuxièmement, sur la question du télétravail, je pense que le télétravail est très utile, à condition qu'il ne pas aller, comme le dit Vincent, il ne faut pas aller plus de 2 jours par semaine. 2 jours, c'est déjà beaucoup. 1 jour par semaine, c'est très bien. Et si on prend la fonction publique, c'est une aspiration. Tous les syndicats de la fonction publique demandent aujourd'hui à renforcer le télétravail. Or, on n'a pas du tout cette habitude-là chez nous, dans notre pays, alors que, par exemple, les autres fonctions publiques, dans le Nord, dans les pays scandinaves, en Allemagne, le pratiquent beaucoup plus.
On peut avoir un inspecteur des impôts qui travaille de chez lui, par exemple?
On peut avoir, bien sûr.
Ça existe, ça, en Europe du Nord, hein.
On peut avoir, peut-être pas un inspecteur des impôts, parce que vous avez des bases de données qui sont un peu confidentielles, mais vous avez des professions qui se prêtent tout à fait administratives, qui se prêtent tout à fait, je suis directeur général d'un service, je peux très bien travailler une journée par semaine chez moi en télétravail, bien sûr.
Vincent Harel, les entreprises vont avoir d'ici 2018 des obligations légales dans un pays comme la France. Je crois que dans une entreprise plus de 100 salariés, il faudra mettre en place un plan de déplacement d'entreprise, oui. C'est-à-dire en gros s'occuper du transport de ses salariés, non?
Alors, je suis pas expert de cette...
Se préoccuper de la question.
En tout cas, de toute façon, c'est une préoccupation, parce que les entreprises, elles ont intérêt à ce que leurs salariés soient productifs. Donc, si elles font le télétravail, c'est non seulement parce que c'est une demande et une aspiration, mais aussi parce qu'on sait que, la plupart du temps, quand on est sur un contrat clair, de confiance entre le salarié et l'entreprise, on a un niveau de productivité qui est bien plus fort en télétravail. Par ailleurs, de toute façon, il y a une responsabilité d'entreprise sur les temps de trajet, enfin ne serait-ce que s'il y a un accident de trajet. Donc c'est quelque chose auquel on fait attention. Moi, je pense par exemple à un site, parce que alors on a beaucoup parlé de l'Île-de-France, mais nous on a un site en Haute-Marne, dans un petit village qui s'appelle Pisloux. C'est un village où il y a 40 âmes et on a 80 salariés. Et en fait, le bassin de vie dans lequel sont nos collaborateurs, il est à peu près à 70 km alentour. Et la Haute-Marne, c'est un pays rude en hiver. Et donc, nous, on recommande, quand il y a de la neige et quand il y a du verglas, des départs en convoi, par exemple. Donc, c'est des choses sur lesquelles on fait attention. Je crois pas
les entreprises
faille...
aussi oui, mettent au point des navettes privées pour le dernier kilomètre ou les derniers kilomètres mal desservis en transport
c'est le cas,
en commun.
Par exemple.
Ce seraient des solutions qui seraient d'ailleurs tout à fait envisageables pour les villes du Sud dans des pays moins développés.
Il y a des tas d'entreprises qui sont installées dans des endroits qui n'étaient pas très bien desservis ou pas encore bien desservis par les transports en commun. Je pense en région parisienne à Saint-Ouen, où on a plus un pôle d'assez grandes entreprises. Il y a des navettes qui sont organisées par les employeurs entre le site et divers points stratégiques de la capitale ou de la banlieue. Donc ça se fait.
On voit bien, si vous voulez, que aujourd'hui les employeurs ne considèrent plus, tout au moins pas tous, mais pratiquement tous, que le salarié habite à la porte de l'entreprise. Et quand on voit, par exemple, les accidents de travail, la moitié des accidents de travail sont des accidents de trajet. Donc, ça coûte très cher. Donc, aujourd'hui, c'est une préoccupation...
Avec des pénalités, d'ailleurs.
Avec des pénalités, fiscales, hein. Absolument. Donc, il y a une préoccupation pour améliorer les choses et faire en sorte, encore une fois, que les gens puissent se réaliser à peu près à leur travail.
Sylvie Landriève, un mot de conclusion sur ce sujet-là, avant que nous vous remercions.
Une expérimentation heureuse d'une certaine façon, c'est en Bretagne. Une centaine d'entreprises plus ou moins drivées, pilotées par la Chambre de commerce et d'industrie, qui ont décidé de réfléchir à la diminution de tous les déplacements qui polluent. Déplacement domicile-travail, déplacement professionnel, et avec succès.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Sylvie Landriève. Dans quelques instants, je vous lis le témoignage intéressant d'un auditeur qui poste ça sur les réseaux sociaux de Douala. I hope my legendary style of rap lives on. Affixed to the earth like my feet, they got cleats on. Moving back was never, that was never the plan. Pushing shit along, render stillness in the quicksand. Asphalt, junky, lyrical, concrete. My Jedi mind be moving me throughout the many dark streets. Backwards, boondocks, whatever terrain. Avitas ain't aloha, man, our feet ain't the same. I wanna do see, shit ain't made for reversing. And trudging through these motherfuckers first. Album footprint, never ever ghost written. Yo, shit free, bitten, grab my shit with both hands. Iron grip, steel mitten, bloviated, cheroviated. And now it's gone. Closed mouths, don't get fed or move ahead to my hustlers with customers. Scammer chicks is being petty. Trap lords with the fetty. Don't be no backwards, no backward ass nigga. Don't be no backwards, no backward ass nigga. Don't be no backwards, no, don't do it, nigga. I spun around without a care. When I stopped, I felt lost. I'm two heels from the top tier. I really want to be boss. I figured it out somewhere. Maybe the answer's not up there. Maybe it's on the ground somewhere. When I stopped, I felt lost. Do you ever feel lost? They wanna see my downfall. Turn a good day into a downpour. Thorns in the crown, heavy cross out there. Why they wanna see me hanging like a towel somewhere? One eye, two heels, three tears, a heart steal. How I'm feeling in my mind right here. I think I'm moving, I ain't going nowhere. It's not a cruise that brought us here. Again, I feel lost. And I refuse to be stuck right here. Les entreprises peuvent-elles faire plus pour les salariés? C'est la question que nous posons aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez nous appeler en direct au 33 1 84 22 71 71. On évoque le bien-être au travail comme levier de productivité. Alors le bien-être, évidemment, c'est très large. On a évoqué beaucoup les problèmes de transport, mais aussi l'ambiance au travail. Je vous lis le message qui nous est parvenu sur les réseaux sociaux de Zeus, qui est à Douala. Il nous dit « Je suis dans une multinationale présente au Cameroun, dans une quinzaine d'autres pays africains. Depuis des mois, c'est l'enfer pour les plus de 3000 employés du pays. Pour réduire les charges, on nous a supprimé le café. Et cette semaine, les cafetières sont mises en vente au personnel. » Non mais ça a l'air anecdotique, mais quand même, ça jette un froid comme ambiance. « On a supprimé les agents d'entretien. C'est le personnel qui s'en occupe. Vous imaginez, des hommes et des femmes venir au travail en veste cravate, nous dit Zeus, tailleur, pour d'abord balayer les bureaux et les laver. La suppression de certaines primes, et j'en passe. Malheureusement, le système est réglé de telle sorte que les employés ne sont pas unis pour protester contre ces abus. Plus de 3000 employés et aucun syndicat. Voilà, c'était le cri du cœur de Zeus. Bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71 si vous jugez que votre entreprise pourrait faire plus, tout simplement pour améliorer le bien-être au travail. On ne parle pas des salaires. Comment vous réagissez mieux diviser pour mieux régner, pour imposer des brimades qui ne sont pas forcément...
Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, l'évolution du travail fait qu'il n'est plus simplement une suggestion acceptée ou une subordination consentie. Le travail, aujourd'hui, c'est une relation avec les autres. L'important, c'est la créativité, la plus-value qu'apporte le salarié. Donc, bien sûr, il peut y avoir ce type, je dirais, de comportement des managers, mais on voit bien que ce qui compte aujourd'hui, c'est comment on peut amener les salariés dans un cadre donné à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je pense que ces décisions sont complètement contre-productives, parce que soit les meilleurs vont partir, soit, en fait, vous allez avoir une situation où les gens vont lever le pied. Et quand les gens lèvent le pied, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose, si ce n'est, à un moment donné, faire des licenciements pour, je dirais, se séparer d'eux. Voilà, donc, je crois qu'il faut comprendre que le travail est essentiel pour l'individu, c'est ce qui nous permet d'exister, d'être avec les autres, de nous créer au quotidien. Donc, il faut que les managers comprennent que les conditions de travail à peu près acceptables permettent aux gens de se réaliser. Bon, je dirais, on a toujours des pervers, on a toujours des gens qui vont pas très bien, mais la grande majorité...
On aurait aussi des témoignages de ce même type, sens. D'ailleurs, dans d'autres pays.
Oui.
Oui, mais aussi dans d'autres pays, hein, je veux dire,
oui,
même s'il y a un droit du travail qui protège dans certains pays.
Oui, mais... il y a un siècle et demi, on faisait travailler les enfants, je dirais, de moins de 12 ans. Enfin, on a quand même fait des progrès, on est au 21e siècle, on est dans une logique, y compris d'échange mondial. Enfin, vous voyez, vous êtes... À Paris, vous parlez aux gens de Douala, au Cameroun. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une convergence, une évolution des mentalités qui fait que l'inacceptable n'est plus accepté.
La durée légale du travail, est-ce que ça sera, Vincent Harel, selon vous, un vrai sujet dans la campagne présidentielle à venir, puisqu'il y aura beaucoup de débats de société de tous ordres dans les mois à venir dans un pays comme le nôtre ?
Alors, oui, manifestement, ça va être un sujet. Alors après, sous quel angle ? Est-ce que c'est la durée elle-même ? Est-ce que c'est le lieu où elle doit être négociée, cette durée du temps de travail ? Je pense que c'est là que c'est un sujet intéressant, parce que un certain nombre des candidats disent que ce serait peut-être assez pertinent de faire négocier ça, sinon dans les branches, peut-être aussi dans les entreprises. En tout cas, ça montre bien. Enfin, moi, je pense que ce qui est intéressant derrière cela, c'est de dire que l'entreprise est un lieu de dialogue social, un lieu d'échange, un lieu où... Par définition, les syndicats et les patrons sont des gens responsables et capables d'échanger sur leurs problématiques, sur leur contexte particulier. Parce que, effectivement, heureusement, on n'est pas tous comme Zeus dans des entreprises extrêmement humanistes. Il y a aussi des entreprises qui souhaitent faire avancer les conditions de travail. Par ailleurs, tous les métiers ne sont pas exactement dans les mêmes situations. Enfin, si on prend un centre d'appel, où peut-être que les conditions de travail vont être délicates, ce n'est pas la même chose que une entreprise dans une tour, dans un grand quartier d'affaires.
Mais quelles sont aujourd'hui les aspirations des Français quand ils sont sondés sur ces questions-là, sur la durée du travail ? Ont-ils envie de travailler plus ou pas ?
Écoutez, je crois que les Français déjà aspirent à un travail, qu'on en ait un ou qu'on n'en ait pas. Il y a quand même 3 millions de chômeurs dans ce pays. Il y a 2 millions de personnes qui ont plus d'un an de chômage. 1 million qui a plus de 2 ans de chômage. Donc ça, c'est la première chose. Et cette précarité, elle pèse sur ceux qui sont en activité. Elle les amène, du fait de cette précarité virtuelle, à accepter, y compris, des contraintes qu'ils n'auraient pas acceptées par ailleurs. En ce qui concerne le temps de travail... 35 heures, 32 heures, 48 heures, enfin, en fonction des acceptions et de la connaissance. Ce qu'il faut savoir, c'est...
Et des propositions des candidats.
Oui, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est globalement, les Français... Alors, même s'il y a une vision négative de l'étranger par rapport, je dirais, à cette question de la valeur travail en France, mais globalement, les Français travaillent autant que les autres pays européens, voire les pays américains.
Ça, c'est très débattu, quand même.
Les statistiques montrent qu'on est à plus de 40 heures. Enfin, je veux dire, les statistiques, elles sont là, elles sont bien présentes. Par contre, il y a eu tout un débat au cours des 10 dernières années en France qui fait que ça a laissé des traces et on a une vision négative des Français. Ouais. Mais les Français ont le taux de productivité un des les plus forts au monde, le taux de qualité un des meilleurs au monde. Donc, pourquoi, en fait, on a des investissements qui se font, y compris dans notre pays ? C'est parce que cette main-d'œuvre, elle est hautement qualifiée. Alors après, effectivement, il y a la question du débat entre entretenu. Il faut le traiter, il faudra le traiter lors de la présidentielle, de manière adaptée, mais il faut reconnaître ce qui est. Les travailleurs français sont des gens qualifiés qui travaillent quand même normalement.
Et quelle va être la place dans les années à venir, alors que bon, les emplois sont appelés à être déconstruits? Quelle va être la place pour l'innovation dans la façon d'appréhender le travail, de gérer les salariés, selon vous, Vincent Harel?
Ah ben, c'est sûr que la technologie, tous les sujets d'innovation vont bousculer les façons de travailler. Alors on le voit déjà avec le développement de la visioconférence, on parlait du télétravail, la gestion électronique des documents, enfin bon, on a plein de choses.
Il y a des expériences à l'heure actuelle qui vous interpellent, là, tous les deux, on tient des pistes.
Oui, alors je vais plutôt prendre un exemple qui n'est pas forcément extrêmement positif, mais on voit ce que fait Uber à Pittsburgh, où ils développent des voitures sans chauffeur. On voit bien que leur modèle futur, c'est de plus avoir chauffeur du tout.
Ouais, c'est la robotisation avec les 40% des emplois qui seront supprimés aux États-Unis d'ici 2025, ce que nous prédisent certaines études.
Donc c'est pour ça que le sujet, c'est l'économie de la connaissance, la créativité qu'évoquait Jean-Claude. Et à ce titre, la France a une belle carte à jouer, d'ailleurs.
Ouais. Je pense que aujourd'hui, il y a des mutations énormes qui vont venir dans les 5 ou 10 dernières années. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'y compris la campagne présidentielle qui s'est ouverte avec les primaires, à droite comme à gauche, n'aborde pas vraiment les mutations à venir. Regardez, par exemple, un scanner vient d'être inventé aux États-Unis qui permet d'avoir des diagnostics beaucoup plus fins, beaucoup plus précis que n'importe quel radiologue. Le radiologue, aujourd'hui, c'est une des professions les mieux rémunérées en milieu hospitalier.
En milieu hospitalier, et dans le privé, vous voulez dire.
Même en milieu hospitalier.
En milieu hospitalier, ils ont les mêmes salaires que les autres spécialistes.
Oui, enfin, ils sont très recherchés, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est comme, je dirais, les ophtalmos, etc. Bon, si vous prenez, par exemple, un autre sujet, la question de la livraison. Aux États-Unis, c'est 4,5 millions d'emplois. En France, c'est énorme aussi. Ce que vient de dire Vincent est très clair. Il y a eu aux États-Unis, il n'y a pas très longtemps, la première livraison de packs de bière sans chauffeur. Donc, on ne peut pas continuer à réfléchir simplement technologie d'un côté sans trouver les moyens de répartir socialement les gains de productivité, sans trouver des compensations pour l'emploi. Parce que sinon, demain, ça veut dire que le travail n'existe plus.
Mais alors, vous qui travaillez sur le bien-être au travail, s'il n'y a plus de travail, justement, comment allons-nous cultiver ce bonheur au travail ?
Vous savez, Nietzsche disait une chose très bien dans la glorification du travail, il expliquait que le travail permettait aussi de donner de l'ordre dans la société. S'il n'y a plus de travail, même si on donne un revenu universel, on risque d'avoir quand même pas mal de désagréments. Si les êtres humains n'arrivent plus à travailler ensemble parce qu'ils seront dans une société simplement rémunérée, on risque d'avoir beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, il faut penser autrement les choses. Il faut certainement taxer les machines, trouver des moyens pour générer des flux financiers, pour peut-être travailler différemment, travailler mieux, respecter plus la planète, imaginez, je dirais, un monde où on se consacrera à l'être plus qu'à l'avoir, moins accumuler de biens, peut-être plus développer nos connaissances et nos potentialités. En tous les cas, actuellement, à court terme, et ça c'est une demande très forte, il faut développer l'employabilité des salariés. Les salariés dans tous les pays doivent demander à leur employeur des formations, ils doivent se donner les moyens de tenir par rapport à la période qui vient. Parce que ceux qui tiendront dans la période qui vient, c'est ceux qui auront déployé des compétences en langue, en technicité, en numérique, etc. etc.
Je voudrais terminer sur le message d'un auditeur qui nous parvient d'Abomey Kalavi au Bénin, puisqu'on disait que c'est difficile pour les entreprises d'imaginer des solutions, finalement d'imaginer des changements aussi dans les comportements avec les salariés, notamment sur les transports pour acheminer les salariés. Il nous dit, Casimir, il y a une entreprise dans la zone industrielle d'Abomey Kalavi qui assure le transport de ses employés qui résident à Cotonou. Et avant que cette pratique ne se développe, il a fallu apprendre aux gens les avantages des transports en commun qui, effectivement, dans de nombreuses villes africaines, les salariés préfèrent prendre leur voiture, et puis c'est aussi une question de statut social, et leur expliquer que ça évite de perdre du temps dans les embouteillages. Le covoiturage, nous dit cet auditeur, n'est pas envisageable ici, car les gens se méfient. Bon, il y a pourtant plein de taxis collectifs, et il y a une très bonne ambiance dans les taxis collectifs. Ouais. Personnellement, j'aimerais bien pouvoir travailler, nous dit cet internaute, ça me permettrait de suivre normalement, en même temps, mes cours à l'université. Alors, l'avenir, pour ceux qui auront encore du boulot, mi-temps en télétravail, mi-temps dans une entreprise où les bureaux seront transformés en salon de bien-être.
Non, moi, j'ai confiance en l'humanité. On va trouver des moyens de renouveler nos façons de travailler, les sujets de travail. Je pensais notamment à tous les débats sur la sécurité sociale qui a eu lieu en France. Ce serait peut-être intéressant de se préoccuper de la façon dont on soigne les gens plutôt que du financement, parce que là, la technologie va trouver des moyens d'améliorer tout ça. Enfin, moi, j'ai une grande confiance là-dedans et une grande confiance dans les entreprises.
Et comment conserver de l'optimisme aussi? Parce qu'on parle de bien-être. Le bien-être, c'est surtout conserver une forme d'optimisme par rapport à des temps incertains.
L'optimisme, c'est la réflexion sur l'avenir qui nous permet de limiter notre incertitude et notre instabilité présente. Or, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de réflexion, de prospective. Et ça devrait être la règle des politiques aujourd'hui, de donner de la vision, de donner du projet, de permettre de se projeter. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de projection. On est tous à subir en réaction à des événements. Donc, il faut donner de la projection, permettre aux gens de mieux, de voir loin pour voir bien et pour s'adapter. Et pour faire preuve d'optimisme. Parce que la vie, elle reste belle.
Merci à vous deux, Jean-Claude Delgène, fondateur et directeur général du cabinet Technologia. Votre livre sort en mars prochain, Idées reçues sur le burn-out. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Ce sera publié aux éditions Le Cavalier Bleu. Merci à vous, Vincent Harel, directeur adjoint de Mercer, entreprise de conseil en ressources humaines et de protection sociale. Merci à vous, les voisins, pour vos témoignages. Et à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néron, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins. On se retrouve à la même heure, au même endroit, dans ce même studio. Merci à vous tous de votre fidélité.